Bonjour, merci d'être fidèle au grand face-à-face de France Inter. Dans un instant, comme chaque semaine, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein, suivi du débat du samedi. Faut-il en finir avec l'obsession de la croissance? L'idée n'est pas neuve, mais nous n'en avons sans doute pas tiré toutes les conclusions. Se focaliser sur le PIB, le produit intérieur brut, rend borgne au bien-être économique, aveugle au bien-être humain, sourd à la souffrance sociale et muet sur l'état de notre planète, fermez les guillemets. C'est le constat que faisait notre invité cette semaine dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. Critiquer la croissance ne suffit pas, il faut aller jusqu'au bout et changer de politique au pluriel, que ce soit à l'échelle européenne, nationale ou encore locale. C'est donc la thèse d'Éloi Laurent. Il est économiste à l'OFCE, professeur à Sciences Po et à l'université de Stanford en Californie. Son livre « Sortir de la croissance, mode d'emploi » vient de paraître. Rendez-vous avec Éloi Laurent dans une vingtaine de minutes.
France Inter. Le grand face-à-face, Ali Badou.
La directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, sont fidèles au rendez-vous. Bonjour les amis.
Bonjour. Bonjour.
Ravi de vous retrouver avant d'entrer dans ce qui a animé la semaine politique. Un mot, Natacha, vous vouliez qu'on s'arrête un moment sur ce qui concerne aussi le débat public et ce qui aurait dû se passer à l'université de Bordeaux-Montaigne cette semaine, à savoir une conférence de la philosophe Sylvia Nagasinski intitulée « L'être humain à l'ère de sa reproductibilité technique », et donc Sylvia Nagasinski devait s'exprimer notamment sur la GPA, sur la PMA, conférence qui n'a donc pas eu lieu.
Non, qui n'a pas eu lieu parce que des groupuscules d'étudiants ont adressé des menaces à l'université, expliquant qu'ils empêcheraient par tous les moyens cette conférence. Pourquoi ? Parce que selon eux, Sylvia Nagasinski serait une homophobe notoire.
Parce qu'elle est contre la GPA et la PMA.
Oui, c'est-à-dire que Sylvia Nagasinski, qui a soutenu le PACS, qui a soutenu le mariage pour tous, qui mène un travail, qui est un travail, quel que soit, enfin, on peut ne pas être d'accord avec sa vision de la PMA et de la GPA, mais elle est dans la pensée nuancée, complexe, ce n'est pas Éric Zemmour, elle n'est pas dans la caricature, dans la recherche de la polémique. Eh bien, Sylvia Nagasinski, donc, ne peut plus parler. Elle-même, d'ailleurs, m'avait dit il y a quelque temps qu'elle savait très bien qu'elle ne pourrait plus enseigner à l'EHESS aujourd'hui.
Ah oui ?
Parce que, là aussi, il y a des pressions, une idéologie dominante qui empêche certains professeurs de dire exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent. Je crois que la situation commence à devenir grave. Et je pense que les universités sont le lieu du savoir, du débat argumenté, de la disputatio, comme on disait autrefois, que ça devienne un lieu où des groupuscules expliquent qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler au nom de leur idéologie, me semble extrêmement dangereux.
Gilles, c'est grave ou est-ce que c'est un problème de maintien de l'ordre et de service d'ordre qui aurait pu être dépassé dans le cas d'une conférence qui aurait eu lieu à l'Université de Bordeaux ?
Ça va, je crois, au-delà. C'est une dérive qui est absolument inacceptable, qui est le signe d'une difficulté de plus en plus croissante dans notre société et particulièrement à l'université d'accepter des opinions qui ne sont pas les vôtres et donc ce faisant d'une liberté d'expression qui peut se trouver de plus en plus amputée.
Le paradoxe, c'est qu'on a l'impression au contraire que la liberté d'expression donne lieu à de grandes dérives, qu'on même peut, on peut dire aujourd'hui tout et n'importe quoi dans l'espace public, dans les médias. C'est
alors,
pas votre sentiment, Natacha ?
Je pense que c'est... En fait, c'est plus compliqué que ça, parce que le problème, là, n'est pas seulement une question de liberté d'expression. C'est-à-dire que employer ce terme « liberté d'expression », c'est dire « il y a des opinions et toutes les opinions doivent s'exprimer ». Or, l'université est le lieu, je le disais, du savoir, c'est-à-dire de la recherche d'une forme de vérité appuyée sur la rationalité. Chacun peut, en effet, aboutir à des conclusions différentes dans les sciences sociales, parce que, justement, ce ne sont pas des sciences dures, il n'y a pas de vérité en sciences sociales ou en philosophie comme il y a des vérités mathématiques, mais pour autant, tant que c'est appuyé sur une réflexion rationnelle, cela doit pouvoir se dire et se proférer. Donc on n'est pas juste dans le combat d'opinion. Or, nous sommes en train de réduire ça à un combat d'opinion avec des opinions qui seraient jugées déviantes, ce qui n'est pas du tout la philosophie des universités depuis le Moyen-Âge.
Et d'ailleurs, Sylviane Gazinski disait qu'elle ne tenait pas à se victimiser, mais qu'elle n'avait jamais vu ça, ce climat d'intimidation qui serait selon elle récent. Et elle appelle à résister, je la cite, à des groupes qui excluent toute critique, y compris celle inspirée par le respect des personnes. Elle est en tout cas la bienvenue dans le grand face-à-face, Sylviane Gazinski, pour qu'on parle justement de ces questions de GPA, de PMA et de la reproductibilité de l'être humain à l'ère technique.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Quand on regarde ce qu'est un mandat d'un maire en France ou d'un président de région, c'est 6 ans. Et pourquoi, pour un président, ce serait seulement 5 ans? En plus, on sait bien que pendant ces 5 ans, il y a une année qui sert un peu d'expérience. Et on voit à chaque fois, on parle d'un temps 2 du quinquennat. Et puis, on voit aussi que la dernière année est très marquée par la préparation de l'élection présidentielle.
L'ancien président de la République, François Hollande, qui plaide pour une profonde réforme des institutions dans un livre qui vient de paraître chez Fayard. Le titre, Répondre à la crise démocratique. L'ancien président souhaite un véritable régime présidentiel et voici quelques-unes de ses propositions. Élire le président de la République pour 6 ans, étendre donc le quinquennat à un sextennat, Natacha, comme on dit. C'est compliqué.
A priori, ce serait sextennat, oui, je pense. Mais je me garderais bien d'être péremptoire là-dessus.
Un mandat de 6 ans, en tout cas. Il propose également de supprimer le poste de Premier ministre, de supprimer aussi le pouvoir de dissolution ou encore le 49-3. Comment avez-vous reçu ces propositions, Gilles?
Alors, si on s'intéresse non pas au messager, mais au message...
Ah bah
si
le
on
messager accepte, compte aussi.
Le messager compte aussi, mais on s'intéresse trop souvent au messager et trop peu au message. Donc, si on se concentre sur le message, je pense que d'abord, le constat est juste. C'est-à-dire qu'il y a une crise et un essoufflement de nos institutions qui souffrent d'une crise de représentativité. L'Assemblée nationale et le président de la République en France s'appuient sur un socle qui est un socle très étroit. Et on le dit trop peu, un problème d'efficacité de nos institutions. Avec un Parlement qui est devenu, pour une large partie, inutile, et surtout avec un exécutif qui, du fait de sa hiérarchie, dysfonctionne de plus en plus. Donc, le constat me paraît juste, l'orientation me paraît intéressante, c'est-à-dire si on dit il y a un essoufflement, si on considère que on ne reviendra pas sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct, la seule voie de réforme profonde de nos institutions, c'est le régime présidentiel.
Expliquez-nous d'un mot ce que ça veut dire, parce que régime présidentiel, ça ne veut pas dire qu'on donnerait encore plus de pouvoir au président alors qu'on est déjà dans la 5e République, dans le cadre de ce qu'on appelle une monarchie présidentielle.
Vous avez raison, ça veut dire même exactement le contraire. Régime présidentiel, ça veut dire que la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif est plus nette, plus stricte qu'elle ne l'est dans un régime parlementaire. C'est ce que vous avez évoqué. Ça veut dire que l'exécutif n'a plus le droit de dissoudre l'Assemblée nationale et qu'en contrepartie, l'exécutif n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Donc c'est un régime de séparation stricte des pouvoirs comme on l'a aux États-Unis. Une fois qu'on a dit, le constat est juste, l'orientation est intéressante, il y a des débats soulevé par François Hollande, qui mérite d'être approfondi. Par exemple, la question du bon rythme d'élection. François Hollande propose 6 ans pour le président de la République, 4 ans pour l'Assemblée nationale. Ça mérite une discussion. On pourrait tout à fait concevoir un régime présidentiel dans lequel on reste avec 5 ans pour les deux. On pourrait concevoir 6 ans pour le président de la République et 3 ans pour l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des vraies élections de mi-mandat comme on en a aux États-Unis. Donc ça, je crois que c'est un vrai débat. Et puis le débat pour moi le plus important et pour le coup qui est peu soulevé, c'est que un régime présidentiel est moins souple. On n'a pas des soupapes pour résoudre des crises avec la responsabilité du gouvernement ou la dissolution.
Et donc on n'a plus le fusible qu'est le Premier ministre si on le supprime.
Et donc comment on fait pour surmonter des crises dans un pays comme la France qui n'a pas la culture du compromis comme peuvent l'avoir les États-Unis?
Natacha.
Oui, premier constat, en effet, la constitution de la Ve République a été tordue, distordue dans tous les sens, et on aboutit à un régime qui n'a plus de véritable contre-pouvoir. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'un régime présidentiel, c'est un régime où il y a de forts contre-pouvoirs. Ce n'est pas le cas chez nous. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, du coup, se retrouve totalement inféodée à l'exécutif, au président de la République, et elle est une simple chambre d'enregistrement. C'est cela qui pose problème. Alors la question de savoir s'il faut aller vers un régime présidentiel. Oui, on se souvient quand on est passé au quinquennat du grand argument, l'argument principal pour que tout le monde accepte le quinquennat, et d'ailleurs c'était rare hein, quand on disait qu'on trouvait que c'était une absurdité. L'argument c'était c'est moderne. C'est oh là là, 7 ans c'est trop long. C'était quand même le degré zéro du débat politique. Hein. Et donc là, on se retrouve confronté à ce problème-là. Alors, ce qui me gêne un peu dans la proposition de François Hollande, c'est que il me semble que soit on va vers un régime présidentiel et sur le modèle américain, on prévoit en effet éventuellement 3 ans pour avoir des élections de mi-mandat, mais avec tout de même, à chaque fois qu'un président arrive, une chambre, la possibilité d'une chambre qui soit accordée. Alors que si simplement, on fait 6 ans, 4 ans en espérant aller vers un régime présidentiel et non pas vers ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, on a 2 choix, 6 ans, 4 ans. On peut retourner vers l'esprit de la Ve République ou aller vers un régime présidentiel. Si on va vers un régime présidentiel de cette façon-là, il me semble que là, pour le coup, ça crée un déséquilibre, puisque quand le président arrive, si l'Assemblée ne correspond absolument pas à ce qu'il veut faire, il n'a pas la possibilité de dissoudre, il n'a pas la possibilité de faire passer donc les lois qui sont les siennes. Et en effet,
il
comme le disait,
se retrouver comme impuissant au moment même où il arrive à l'Élysée.
Et comme le dit Gilles, nous n'avons pas la culture du compromis qui permet de travailler avec une assemblée petit à petit. Donc il faut réfléchir à ça, mais en tout cas y réfléchir et enfin considérer que la question des institutions est majeure, c'est déjà un premier pas.
Oui, parce que c'est pas une question en général qui mobilise les foules, Gilles, mais le pouvoir de dissolution, le supprimer le 49-3, c'est assez étonnant parce que ce sont deux des pouvoirs les plus forts dont dispose le président de la République pour faire avancer des mesures, même s'il a des frondeurs, par exemple, et je pense que François Hollande s'en souvient.
Oui, le paradoxe, c'est que ce sont deux dispositions très importantes aux mains du pouvoir exécutif sous la Ve République, mais qui ne sont pas utilisées.
Le 49-3.
Le 49-3 l'a été...
Il l'a utilisé, notamment.
Il l'a été par Manuel Valls, on s'en souvient.
Il l'a été sur un texte important, il l'a été 2 fois... Enfin, sur un texte, sur l'ensemble d'un quinquennat. Il ne l'a pas été depuis le début, il faut dire qu'il y a une majorité absolue et qui est une majorité, par ailleurs, qui est disciplinée depuis 2017. Il a beaucoup servi, en revanche, et c'est là où on revient à cette histoire de culture du compromis, il a beaucoup servi à un moment qui est entre 1988 et 1993, c'est-à-dire à un moment où il n'y avait pas de majorité absolue pour gouverner, où il fallait trouver des compromis. Lorsqu'il n'y avait pas de compromis, ben, le 49-3 permettait de gouverner. Depuis, il faut quand même souligner que la révision a été révisée et qu'il n'est plus possible d'utiliser le 49-3 à tour de bras comme cela avait été le cas, puisqu'il ne peut être utilisé qu'une fois par session. Quant à la dissolution, elle a été des dissolutions de crise. Elle n'a été utilisée en réalité que par au début des années 60, puis par Jacques Chirac avec un succès relatif.
Évidemment. Oui. Malgré tout, un mot sur le messager. Est-ce que François Hollande est le mieux placé pour formuler ses propositions? Gilles ne voulait pas commencer par là, mais je vous pose la question.
Gilles avait raison de ne pas commencer par là, mais une fois qu'on y est, oui, il y a quelque chose d'assez surprenant et presque risible à voir François Hollande se positionner sur ces questions, alors même qu'il a appartenu à un parti qui a contribuer très largement à détricoter la Ve République et à la déséquilibrer, que ce soit par les choix et par l'exercice présidentiel. Mais surtout, il me semble que ce qu'il faut avoir en tête, c'est le fait aussi que c'est la question est de savoir comment on réussit aujourd'hui à remettre en ordre une démocratie représentative qui permette de réellement représenter et donc traduire la volonté populaire. C'est ça la question à laquelle nous sommes confrontés. La question institutionnelle est majeure, elle n'est pas la seule. Et si on pose la question d'un régime présidentiel, sans se demander ensuite comment, au sein de l'Assemblée nationale, on fait en sorte que les différentes sensibilités soient représentées pour permettre justement que les citoyens aient l'impression de se faire entendre, on passera à côté. Donc c'est l'ensemble des questions qu'il faut poser, mais tant qu'on considérera qu'il y a des sujets qui sont tabous, qu'il y a des sujets qui ne doivent pas être abordés parce que l'économie est une science dure qui doit dicter sa volonté à la politique, on peut mettre toutes les institutions du monde, ça ne changera rien.
Un mot encore, Gilles.
Oui, juste d'une phrase sur François Hollande. Il est à la fois le plus mal placé, parce qu'il était président de la République et donc il avait, notamment à l'automne 2016, après un rapport de Claude Bartolone et de Michel Vinocq qui proposait le régime présidentiel, il avait fermé la porte. Mais il est aussi le mieux placé, parce que c'est le seul parmi les nombreuses personnalités qui se sont exprimées en faveur du régime présidentiel, il est le seul à avoir été président de la République et donc à avoir éprouvé de l'intérieur le fonctionnement et les dysfonctionnements de la Ve République.
France Inter, le grand face-à-face, le duel. C'est une contestation sociale, parce que nous n'avons pas été entendus depuis des décennies, et plus encore depuis la dictature, et que nous sommes sous la constitution élaborée par la dictature.
Il est vrai que les problèmes ne datent pas de ces derniers jours. Ces situations d'inégalité a conduit à un mouvement sincère et véritable de millions de Chiliens. Je reconnais notre faute et demande pardon pour le manque de vision à tous nos compatriotes.
Ça se passe au Chili, étudiants, syndicats, enseignants mobilisés depuis maintenant une semaine. Ils protestent contre les inégalités économiques et sociales, des manifestations qui ont abouti à des heurts, qui ont été durement réprimées, des morts, des blessés, des milliers d'arrestations. L'armée est intervenue dans les rues de Santiago pour la première fois depuis l'ère Pinochet. On vient d'entendre quelques mots d'un témoignage d'une manifestante dans la capitale chilienne. C'était mardi dernier. Et mardi, la réponse du président Sebastián Piñera qui annonçait un paquet de mesures destinées à apaiser la fronde, instauration d'un salaire minimum garanti, hausse des retraites, stabilisation des coûts de l'électricité. Voici quelques-unes des annonces qu'il a faites. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce mouvement qui se déroule au Chili, Natacha ?
Plusieurs choses. D'abord, le fait qu'en effet, le Chili n'est pas tout à fait sorti de la dictature de Pinochet et la façon dont se passent ces manifestations le démontre. La constitution, l'ensemble des institutions chiliennes ont gardé la trace de cela. Et surtout, Piñera est en fait le meilleur élève de ce qu'était Pinochet, dans la mesure où il est à la fois, et il le prouve aujourd'hui, dans une tentation dictatoriale et d'un écrasement, parfois avec des méthodes douteuses, d'un mouvement social, mais surtout, c'est un parfait Chicago Boy, c'est-à-dire c'est un
Chicago Boy.
Oui, un héritier de l'école de Chicago, c'est-à-dire de toute cette libéralisation qui a sévi depuis 40 ans et qui s'est imposée à des pays comme le Chili et qui finalement, s'accommode très très bien des régimes dictatoriaux. Et là, en l'occurrence, la révolte au Chili est une révolte des classes moyennes. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est tout simplement le prix du ticket de métro.
Oui.
C'est-à-dire que, et c'est vrai d'ailleurs dans beaucoup de pays, aujourd'hui la question des transports est une question majeure parce que la liberté de se déplacer, c'est une liberté fondamentale et c'est la possibilité pour des gens de pouvoir travailler et vivre de leur travail. C'est tout cela qui se joue. On le voit dans différents pays sous différentes formes, mais c'est le grand paradoxe, c'est de voir la modernité s'appuyer sur l'accélération, la vitesse, la réduction des distances et en même temps, comme la libéralisation des flux de capitaux et de marchandises a appauvri les États, il faut à un moment faire payer quelqu'un et on fait payer les classes moyennes. Et les petites classes moyennes à qui on dit qu'il faut être mobile, on les assigne à résidence en leur faisant payer le déplacement un peu plus cher. C'est tout ce jeu-là qui est en train de se mettre en œuvre et qui est le résultat d'une politique néolibérale qui est absolument dramatique. Et en l'occurrence, là, vous avez sur la question des retraites au Chili, par exemple, ce sont des retraites par capitalisation, des retraites extrêmement faibles, alors que elle rapporte énormément à tous les fonds qui les gèrent. Donc on retrouve tous les ingrédients d'une explosion sociale majeure.
Gilles Finkelstein. Ouais.
Ce qui se passe au Chili, là, est assez inédit. C'est inédit par la forme de la contestation. Il y a eu des attaques contre 164 stations de métro, c'est-à-dire toutes les stations de métro de Santiago ont été attaquées, et inédit par la forme de la réaction, vous l'avez évoqué, c'est la première fois depuis le départ de Pinochet que c'est l'armée qui est chargée du maintien de l'ordre, et pour le moins, elle l'a fait de manière extrêmement, extrêmement violente, si on regarde le nombre de morts et le nombre de blessés. Il y a des parallèles qui peuvent être faits, toutes choses égales par ailleurs, avec le mouvement des Gilets jaunes ici. L'origine, le prix des transports, c'était le carburant. Chez nous, c'est le
métro. Oui, c'est ce que sous-entendait Natacha.
Oui, oui.
Alors même que c'était une augmentation qui était extrêmement minime. Hein, c'est 0,4 euros d'augmentation du prix du ticket de métro. Mais ce qui était derrière, c'était non pas les 30 pesos, mais les 30 dernières années, pour reprendre une formule qui fleurit sur les murs de Santiago. L'organisation du mouvement par les réseaux sociaux, comme dans beaucoup d'autres endroits, la violence est très vite la
Une manifestation avec une atmosphère aussi souvent festive.
Absolument. Et très vite le transfert des questions sociales aux questions politiques, exactement comme on l'a vu. Vous l'avez dit, le président de la République a fait des concessions extrêmement importantes et pour le coup relativement rapides. Mais maintenant, la question n'est plus seulement une question sociale, c'est aussi une question politique dans un pays dans lequel le désengagement vis-à-vis de la politique est fort, le dégoût d'une classe politique qui est la plus payée de toute l'Amérique latine et pour partie peut-être même du monde est extrêmement fort. Et donc il y a ces parallèles. J'ajoute un tout dernier mot. On est dans une situation, et ça va, on pourra en parler aussi avec Éloi Laurent, où on voit la faiblesse ou la limite des indicateurs, où on peut dire que le Chili va bien, mais que les Chiliens vont mal. Le Chili va bien quand on regarde
les statistiques.
C'est un pays relativement riche par rapport au continent sud-américain, mais les Chiliens vont mal au sens où, pour les raisons qu'a évoquées Natacha Polony, les inégalités sont extrêmement fortes. C'est un des pays de l'OCDE dans lequel les inégalités sont les plus fortes et qui est sur un système qui est intenable à la fois pour des raisons économiques. La question de l'éducation est une question absolument majeure, privatisée avec un endettement des ménages considérables pour pouvoir payer les études et qui enfin est insoutenable d'un point de vue écologique puisque l'économie repose très largement sur le cuivre qui est extrêmement polluant.
Encore un mot, Natacha ?
Oui, encore un mot. En effet, le Chili est la caricature de ce mouvement néolibéral qui s'est construit sur 40 ans et dont nous voyons aujourd'hui les limites.
Ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc.
Exactement. Et on s'aperçoit que tout cela crée de la tension, du malheur, des explosions un peu partout, sauf qu'on ne voit pas, absolument pas, le système se réformer. Et c'est cela qui est profondément inquiétant, que l'explosion vienne en France, que l'explosion vienne au Chili de différentes manières. Visiblement, nous sommes toujours sur la même pente, alors même que vous avez en effet une richesse qui ne crée absolument plus de bien-être et de bonheur parmi les peuples.
Et on aura l'occasion d'en parler donc au cours du débat.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Rapidement, Gilles, dans l'actualité, vous avez voulu vous arrêter sur un phénomène très contemporain, ce qu'on appelle le co-working, comme on dit en bon français, traduction, travailler ensemble, mais travailler ensemble dans des espaces délocalisés, il faut oublier les bureaux, les open space, et penser à des espaces où l'on vient s'installer pour travailler quelques heures, parfois à la journée, qui est souvent à l'extérieur même de l'entreprise. Ça se développe. Paradoxe, l'un des leaders du secteur, l'américain WeWork, vient d'être sauvé de la faillite. Pourquoi avez-vous voulu vous arrêter là-dessus?
Parce que la question de l'organisation du travail est de plus en plus une question majeure et qu'on a parallèlement ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire ce coworking qui concerne plutôt des toutes petites entreprises, des gens qui viennent là trouver un espace commun, et qu'on a parallèlement, il y avait un rassemblement de directeurs des ressources humaines, un développement de ce qu'on appelle le flex office.
Le flex office.
Ça veut dire quoi ?
De flexibilité et bureau.
Ça veut dire qu'il y a eu une première étape dans laquelle les salariés n'avaient pas nécessairement leur bureau, au sens qu'ils n'avaient pas une pièce qui leur était attribuée, c'est ce qu'on appelle les open space. Et puis il y a un deuxième mouvement, plus récent, dans lequel il n'y a pas de bureau, au sens où vous n'avez même plus une place attribuée. Il y a des grands espaces et le premier arrivé s'installe là où il veut. Les causes de ce développement, c'est d'abord trouver une meilleure compétitivité, hein, puisque on a fait le constat, et je comprends que les entreprises réfléchissent à ça, que 50 à 60% des bureaux ne sont pas occupés tout le temps. Et donc, on essaye de rentabiliser l'espace. Mais il y avait aussi derrière l'idée d'une meilleure organisation, c'est-à-dire qu'on veut décloisonner au sens physique pour décloisonner réellement, déhiérarchiser, tout le monde est en flex-office. Mais, et c'est là où on voit les effets, les limites, le travail, c'est un lieu de socialisation. Et le paradoxe de ce développement de ces bureaux, c'est que ça isole. Ça isole parce que on est coupé de son équipe de travail et ça isole parce que le fait qu'on soit dans un grand espace fait que en réalité tout le monde se replie avec ses écouteurs et que donc les effets pour le travail lui-même, le sentiment qu'il n'y a plus de reconnaissance, non seulement il n'y a plus de reconnaissance par le travail, mais il n'y a même plus de reconnaissance par un espace. Et donc, je crois que c'est encore des phénomènes qui sont, je ne dis pas marginaux, mais qui sont minoritaires, mais qui font réfléchir sur la manière dont on conçoit le travail.
Natacha ?
Ce ne sont pas des phénomènes marginaux, parce qu'en fait, ce sont des phénomènes qui font écho à d'autres. C'est-à-dire que c'est l'équivalent pour l'employé de bureau de ce qu'est une forme d'ubérisation pour le livreur, le manutentionnaire. Et il y a donc petit à petit dans tout l'ensemble du monde du travail une transformation qui relève du diagnostic de Zygmunt Bauman sur la société fluide. C'est-à-dire que c'est le déracinement absolu des individus qui crée de la fragilité et qui, en effet, c'est le paradoxe, est en plus contre-productif puisqu'on s'aperçoit trop tard souvent, des défauts de ce genre de système. Mais ça va avec la libre circulation, des flux de capitaux, de marchandises, tout coule, tout glisse, et les êtres humains sont considérés comme des variables d'ajustement.
Et la promesse de bonheur, Gilles, celle des start-up, des entreprises de la technologie, où il n'y a plus justement de bureaux, mais des espaces où il y a des canapés, des fauteuils, où on peut s'installer à peu près où on veut, c'est un mythe auquel il faut arrêter de croire ?
Ce n'est pas totalement un mythe. Ce sentiment de fragilité qu'évoque Natacha Polony, Daniel Linhart, la sociologue, a parlé d'une précarisation spatiale où chaque jour tout est remis en jeu. Et je crois que c'est ça qui est très intéressant. Après, il faut quand même dire aussi que depuis les premiers flex office, il y a eu une réflexion sur l'organisation de ces bureaux où il ne s'agit pas toujours et seulement de faire des économies, mais de réfléchir à l'utilisation de l'espace et l'espace que l'on gagne avec le flex-office, de le réaffecter pour avoir des espaces communs qui soient de meilleure qualité et qu'il y ait des espaces qui soient plus différenciés, c'est-à-dire qu'il y ait des endroits qui soient des endroits silencieux, des salles de réunion à 2, à 4, à 10. Et donc, il peut y avoir des bons ou en tout cas de moins mauvais flex-office.
Ou des lieux comme ce studio avec une table ronde comme celle des chevaliers de la table ronde. Merci à tous les deux. À suivre le débat.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
Et en débat cette semaine, la passion de la croissance, pour reprendre l'expression qu'emploie notre invité dans son dernier livre, une passion qui influence profondément la politique des gouvernements et par ricochet la vie quotidienne de milliards de citoyens aux quatre coins de la planète. Fermez les guillemets, l'obsession pour la croissance économique détournerait l'attention des vrais défis de l'humanité en ce début de 21e siècle, défis que sont le bien-être social, la lutte contre les inégalités, l'écologie. Et il est urgent de s'en libérer. Celui qui lance l'alerte est l'un de nos grands économistes, professeur à Sciences Po et à l'Université américaine de Stanford, économiste senior à l'OFCE. Il publie « Sortir de la croissance, mode d'emploi ». C'est aux éditions des Liens qui libèrent et ça ne s'invente pas. Bonjour Éloi Laurent.
Bonjour.
Et bienvenue, le livre est passionnant. J'ai hâte de vous entendre en débattre avec Gilles et Natacha. Mais puisque votre ambition est de changer les politiques, est-ce que vous l'avez adressé au président de la République, au Premier ministre, à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie par exemple?
Non, mais il est en vente libre.
Donc, il est en vente libre.
Oui, je pense que... Mais je ne l'ai pas adressé aux politiques. Oui, c'est une bonne idée, je pourrais le faire, oui.
On va en parler parce que j'imagine la réaction d'un candidat à l'élection présidentielle, par exemple, si on lui dit « ne parle pas de croissance, n'imagine pas que ce soit un objectif et ce sur quoi tu vas fonder ton programme économique, il faut imaginer... » Tout autre chose. Que vous répondrait-il ?
Sans doute que c'est un objectif irréaliste, qu'on a besoin de croissance pour financer les dépenses sociales, que la croissance est indispensable comme moteur du progrès, etc.
Autant pour lutter contre le chômage, par exemple.
Pour lutter contre le chômage, donc autant de mythologie qu'on ressasse sur la croissance depuis des décennies.
De mythologie.
C'est des mythologies économiques. Vous pouvez parfaitement regarder, par exemple, l'état de la sécurité sociale, corréler ça à la question de la croissance. Vous verrez que la croissance qui importe, c'est pas la croissance croissance économique, c'est la croissance démographique. Vous pouvez prendre le pouvoir d'achat en France en 2019, vous verrez que la croissance est très faible. C'est la hausse la plus importante de pouvoir d'achat depuis 12 ans. Pourquoi ? Parce que ce qui importe pour le pouvoir d'achat, c'est pas la croissance, c'est la question de la distribution. C'est pas la production, c'est la distribution ou la redistribution. Les enjeux de justice et d'inégalité sont infiniment plus importants pour définir le pouvoir d'achat des ménages que la question de la croissance économique. Vous pouvez prendre la question des écosystèmes, de la biodiversité, du climat. Il y a quelques jours sortait une évaluation de la France selon les limites planétaires. Donc, où en est la France en termes de climat, de biodiversité, d'écosystèmes ? On est complètement dans le rouge. Et pourtant, la croissance est positive. Donc, si vous voulez, c'est d'abord, il n'y a pas que la présidentielle dans la vie, il y a les municipales. Donc,
aussi en parler, voilà. Puisque vous évoquez les politiques à l'échelle européenne, nationale et locale, voilà, l'horizon des municipales.
Si je devais convaincre des candidats aujourd'hui, ce serait des candidats aux municipales, parce que sans doute que les villes sont des acteurs essentiels de cette transition du bien-être que j'appelle de mes voeux, et notamment parce qu'ils ne sont pas prisonniers de ce prisme national. Donc voilà tout ce que je dirais à ces candidats.
On ouvre le débat, Natacha Polony.
Oui, je pense que le premier constat que vous dressez est tout à fait le constat le plus essentiel à faire, à savoir que cette gouvernance par les nombres, pour reprendre les termes d'Alain Supiot, ça aboutit à une aberration absolue, et dans un sens, nous en sommes encore à nous en apercevoir sans en tirer les conséquences. C'est-à-dire que là, nous sommes dans la phase où nous nous apercevons, par exemple, que sur le plan écologique, ce n'est absolument pas tenable, mais sans pour autant être capable de remettre en cause cette logique de la croissance qui est en fait une logique de la consommation. C'est-à-dire la définition du capitalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est un capitalisme fondé sur l'idée que les individus ne sont pas des citoyens, mais qu'ils sont là pour faire marcher, pour être un rouage de la mécanique économique, pour permettre justement d'alimenter la croissance. Mais ce qui me frappe là-dedans, c'est la difficulté que l'on peut avoir aujourd'hui à débattre réellement de cela. Par exemple, je donne juste un exemple. Quand on parle de décroissance. Le terme n'est peut-être pas le bon justement parce que dans notre idéologie du progrès, quelque chose qui est marqué négativement semble immédiatement à bannir. Quand on parle de décroissance, on a immédiatement un économiste bontain qui explique mais comment ? Regardez la décroissance, c'est ce que nous vivons, regardez c'est du chômage de masse, etc. C'est-à-dire qu'on confond décroissance et récession dans un système fondé sur la croissance. Comment expliquez-vous que cette pédagogie-là ait tant de mal à passer dans les médias, la sphère politique? Qu'est-ce qui fait que c'est inaudible alors qu'on voit les limites?
Je crois pas du tout que ce soit inaudible. Je pense que c'est de plus en plus audible. Mais la question que vous posez, c'est pourquoi est-ce que la croissance a une telle puissance politique? On a différents arguments. Il y a des économistes qui pensent que c'est parce que statistiquement le PIB est extrêmement robuste et que ça mesure très bien une espèce de synthèse de tout ce qu'il y a à savoir sur l'économie. Je pense que c'est exactement le contraire.
Faisons un petit travail de pédagogie, monsieur le professeur. Justement, quand on parle de croissance, on mesure la croissance du PIB, PIB, c'est-à-dire l'ensemble des richesses, les biens, les services qui sont produits au cours d'une année sur un territoire, dans un pays.
Monétarisés, donc qui ont une valeur monétaire, ils sont échangés sur des marchés. Donc ça exclut énormément
toutes
de choses. Tout ce qui n'a pas... c'est pas toutes les richesses produites. C'est uniquement l'activité économique, c'est-à-dire les biens et les services. La richesse humaine n'est pas mesurée. Oui. La richesse écologique n'est pas mesurée. La richesse sociale n'est pas mesurée. La confiance dans les institutions, la qualité de la démocratie, la santé, l'éducation, tout ça échappe complètement au PIB. Moi, je dis que le PIB est borgne sur le bien-être économique. Il laisse de côté, par exemple, les inégalités ou le revenu des ménages. Il est aveugle sur le bien-être humain. Pas de santé, pas d'éducation ou si peu. Il est muet sur les souffrances sociales, pas de définition d'une démocratie qui va bien ou mal. Regardez les États-Unis, c'est une démocratie qui s'effondre, elle a 3% de croissance, et il est totalement muet sur l'état de la planète, donc rien sur les écosystèmes. Donc si vous voulez, c'est quand même embêtant. On est au début du 21e siècle, on a sous les yeux trois crises majeures, crise sociale, crise des inégalités, crise écologique qui sont évidentes et crise démocratique, on a une boussole de nos politiques publiques qui ne nous dit rien des crises qu'on a affrontées. Donc pour répondre à votre question...
Sur la décroissance.
Sur la question surtout de la puissance politique. Ma thèse, moi, c'est pas que c'est la robustesse statistique et que c'est pas que la force synthétique. J'en dis, ah oui, le PIB c'est très... tout le monde comprend ce que c'est. Non, personne ne comprend ce que c'est. Je vous dis, il y a 2,6% de croissance versus 2% de croissance. Vous êtes incapable de me dire ce que ça change dans votre vie et dans votre quotidien, et c'est le cas de 100% des gens. La vraie force, c'est que c'est encastré, incrusté dans des procédures budgétaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Chine, aux États-Unis, en France, à Paris, dans l'Union européenne, on vote des budgets qui est l'acte fondateur essentiel de la démocratie, la respiration démocratique, à la fois ce qui a fondé le pouvoir du Parlement au XVIIe siècle en Europe et en même temps ce qui rythme la démocratie, on vote des budgets à partir de la croissance. Et donc, tant qu'on n'aura pas désencastré, délogé la croissance d'où elle est dans nos institutions, on n'arrivera pas à en sortir.
Est-ce que je peux émettre une hypothèse ? Est-ce que finalement, la puissance de cette logique-là ne vient pas du fait que l'essence même du libéralisme, c'est l'idée de sortir de cette confrontation des valeurs imposées par l'État et la puissance publique, et donc d'avoir une puissance publique qui soit axiologiquement neutre, et une régulation par le droit et le marché. Et que du coup, ça... En fait, on refuse de sortir de là. Pourquoi ? Par peur de voir s'affronter des idéologies, puisque finalement, si on commence à parler non plus vraiment seulement de bien-être matériel et de croissance, mais de bonheur, eh bien, nous en avons tous une vision différente. Et donc, l'idée, ce serait que la solution serait de ne surtout pas en parler.
Alors, ça, c'est vraiment très juste comme analyse. Je trouve ça très intéressant. Regardez le chapitre sur la question de la solitude, ce que j'appelle la mondialisation de la solitude. Je parle précisément des sources du bonheur. C'est-à-dire, quand vous demandez aux gens ce qui fait leur bonheur, la première chose qu'ils vous répondent, c'est les liens sociaux. Et pourtant, il n'y a aucune politique publique dans le monde qui soit fondée sur préserver et améliorer les liens sociaux. Mais pour revenir à votre argument très juste, en effet, il y a des gens qui disaient, mais dès la conception même du PIB, au fond, c'est comme la monnaie, c'est une façon de ne pas faire la guerre, c'est-à-dire c'est une façon de ne pas parler d'inégalité. Donc, la croissance est une sorte d'ersatz à la question des inégalités, et donc politiquement, c'est beaucoup moins sensible. Ça, c'était valable dans le monde où tout était aligné, ça, c'était valable dans le monde où la croissance économique induisait une forme de progrès social, et vous aviez toutes les courbes, si je puis dire, qui étaient alignées. Depuis 30 ans, on a une grande divergence de toutes les courbes. Vous avez la croissance qui explose, le PIB qui continue à augmenter, les inégalités qui sont totalement hors de contrôle, les écosystèmes qui sont en crise, la santé. Prenez les États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays de la croissance qui est en train de vivre la fin de la croissance. C'est-à-dire que c'est le pays où vous avez un président qui dit on fait 3% de croissance et l'espérance de vie recule.
Gilles ?
Oui, la puissance politique de la croissance demeure extrêmement forte. Il y a un imaginaire de la croissance, d'ailleurs partagé aussi bien à gauche qu'à droite, en France que dans la plupart des pays, et en même temps une critique de la croissance qui n'est pas du tout une critique nouvelle. Vous citez des travaux qui ont 50, 60, 80 ans parfois, et avec des critiques que l'on peut reprendre aujourd'hui, peut-être que l'on peut compléter, notamment avec la dimension environnementale qui pouvait être moins présente dans l'entre-deux-guerres qu'aujourd'hui. Bon, mais on a ça, une puissance, un imaginaire de la croissance et une critique de la croissance. Ma question, je voudrais prolonger ce que disait une forme presque de question préalable. Vous n'utilisez pas le mot décroissance dans le livre.
En effet.
Le livre s'appelle « Sortir de la croissance ». Oui. Est-ce que sortir de la croissance, ça veut dire entrer dans la décroissance ? Et si tel est le cas, est-ce que dans un monde, vous parliez de la démographie, dans un monde dans lequel il va y avoir 2-3 milliards d'hommes et de femmes supplémentaires, est-ce que l'on peut sortir de la croissance et est-ce qu'on peut entrer dans la décroissance ?
Alors, non.
Ou est-ce que c'est une question qui n'a pas de sens ?
Ah ben je vais pas vous dire ça, ce serait désagréable.
On est là pour débattre.
Voilà, mais la
nous
question
ne sommes pas susceptibles.
La question a du sens. Au contraire, elle a même du sens au sens du sens positif ou négatif. Vous dites, au fond, il y a un sens qui est soit on va vers la croissance, soit vers la décroissance. Moi, je propose de sortir de cette échelle. C'est-à-dire, je propose de prendre un autre référentiel. Le débat décroissance-croissance a totalement piégé la question de la vraie mesure du bien-être humain. Et donc, je n'utilise pas le terme de décroissance parce que je n'ai pas l'intention d'utiliser le même indicateur en sens inverse. Ce que je veux, c'est changer de référentiel, c'est-à-dire prendre comme finalité le bien-être humain, c'est-à-dire un objectif final et pas intermédiaire. Parce que croissance ou décroissance, c'est de toute façon un objectif intermédiaire qui est censé nous permettre d'atteindre des finalités que l'on vise vraiment. Moi, je propose de les viser vraiment. C'est-à-dire, ce qui nous importe au XXIe siècle, c'est le bien-être humain. Définissons le bien-être humain aujourd'hui et maintenant, santé, éducation, institutions, confiance, etc., avec une vraie vision plurielle du bien-être humain. Définissons le bien-être humain dans 4-5 ans, résistance au choc écologique, c'est la résilience. Donc, c'est quoi le bien-être des gens qui habitent à Paris quand il y a une crue centenaire de la Seine ? C'est quoi le bien-être des gens qui habitent dans le sud-est de la France quand il y a des inondations structurelles ? Et puis, définissons le bien-être humain, non pas dans 4 ou 5 ans, mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, en en harmonie avec les écosystèmes, et ça s'appelle la soutenabilité. Et je dis, voilà les trois horizons de l'humanité. Donc ne parlons pas croissance-décroissance, c'est un débat totalement dépassé en réalité.
Est-ce qu'il est dépassé justement? Parce que j'aimerais vous apporter un peu de contradiction, vous analysez entre autres l'exemple de la Chine. En Chine, comme ailleurs, on sait que la croissance économique, elle s'est traduite concrètement par la sortie de la pauvreté de centaines de millions de personnes, non, comme en Inde. C'est en tout cas la chose la mieux répandue, cette idée que une croissance à deux chiffres en Chine a permis ça, a permis cette sortie de la pauvreté. Vous leur demandez aux Chinois, aux Indiens et aux autres, renoncer à l'idée de la croissance, c'est pas comme ça qu'il faut imaginer l'avenir de vos sociétés?
Je leur dis, prenez soin du bien-être de vos habitants. Mais ce que les Chinois ont compris, je veux dire, la critique de la croissance, si vous écoutez le discours de Xi Jinping il y a 2 ans à l'ouverture du congrès du Parti communiste chinois, il vous dit, la croissance ne nous intéresse pas. Le développement économique de la Chine est insoutenable. Les gens n'en veulent pas parce que leur bien-être est en train d'être détruit. Vous savez combien il y a de Chinois qui meurent chaque année de la pollution de l'air? 1,2 million. Il y a 1,2 million de personnes en Chine qui meurent de la pollution de l'air du fait d'une hypercroissance totalement sans contrôle. Et donc la Chine elle-même est en train de sortir de la croissance. Si vous regardez le dernier plan quinquennal chinois, ils ont divisé le taux de croissance qu'ils visent par 2. Ils étaient sur des chiffres, sur une croissance à 12%, ils sont passés à 6,5%.
On peut vous dire que c'est du réalisme.
C'est du réalisme parce qu'ils se rendent compte que les gens meurent de la croissance en Chine. C'est-à-dire que les écosystèmes sont détruits et que dans 4 ou 5 ans, il y aura plus d'air à respirer, plus d'eau à boire, plus rien à manger qui ne soit pas pollué en Chine. Et que donc la croissance économique elle-même disparaîtra. Mais ça, on s'en fiche. Ce qui est en train de disparaître, c'est la santé des Chinois. Et donc ça provoque quoi? Des émeutes. Il y a des milliers d'émeutes environnementales en Chine chaque année. Évidemment, on n'en parle pas. Des gens qui se révoltent contre leurs conditions de vie parce qu'ils constatent que cette hypercroissance complètement folle a détruit leur santé. Donc en Chine, comme aux États-Unis, le véritable indicateur qu'on peut opposer à la croissance, c'est la santé.
Natacha Polony.
Juste une petite parenthèse d'abord. Je disais que la décroissance était sans doute un mauvais terme. Et la preuve en est que ce que vous décrivez, c'est exactement le projet, en fait, des véritables décroissants. Alors que ce que décrit Gilles, c'est-à-dire s'il n'y a pas la croissance, il y a la décroissance. Non, s'il n'y a pas la croissance, il y a la récession. La décroissance, c'est ailleurs. C'est justement arrêter de mesurer uniquement à l'aune de la croissance. C'est penser avec d'autres critères. Alors ma question, elle est dans une société qui se veut rationnelle et où justement nous devons définir quelles vont être les politiques qui vont nous amener ensemble à améliorer le bien-être, l'éducation. Comment on fait pour mesurer? C'est parce que toute la question qui est derrière, c'est celle des chiffres, c'est celle des nombres, c'est la façon dont on évalue tout cela. Et c'est vrai que le PIB, c'est simple. En revanche, si je prends par exemple, je caricature, je dis c'est censé être simple, oui. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Mais si on prend la question de l'éducation, par exemple. Vous avez aujourd'hui des critères qui sont des critères internationaux, des enquêtes, ce sont les enquêtes PISA, etc. Ces enquêtes reposent sur des évaluations, mais qui en fait sont contestables parce que justement, à partir du moment où on veut évaluer de façon structurée, on en vient à morceler totalement le savoir, on oblige les professeurs à cocher des items pour savoir s'ils ont répondu et si ça rentre dans les bonnes cases. Or, l'évaluation d'une éducation réussie, ça doit reposer sur le savoir-faire d'un enseignant qui est capable de mesurer globalement si la personne, si l'élève qu'il a en face de lui a développé son intelligence, a développé son sens critique, etc. Donc, en gros, est-ce que vous n'êtes pas de toute façon prisonnier des nombres?
Alors ça, c'est doublement juste comme question.
D'abord,
vous avez parfaitement raison sur le fait que si on veut faire la critique de la croissance, il faut aussi faire la critique des indicateurs alternatifs à la croissance. En l'occurrence, moi j'ai fait ce travail. J'ai publié un livre il y a 2 ans aux presses universitaires de Princeton qui donne un catalogue des indicateurs les meilleurs, par exemple, pour mesurer l'éducation et qui en fait la critique. Et c'est ce que je fais avec mes étudiantes et mes étudiants en France, aux États-Unis. Je fais des cours sur la critique des indicateurs alternatifs. C'est pas une critique visant à les détruire. PISA, c'est une façon de mesurer l'éducation. Voilà. Il y en a d'autres. Vous avez parfaitement raison sur le fait que PISA est critiquable. Je vous donne un exemple très simple, vous connaissez peut-être. Les deux systèmes qui sont par exemple mis en valeur par PISA, c'est d'un côté la Finlande, de l'autre la Corée du Sud.
Donc,
de l'autre, vous avez un système dans lequel on apprend aux enfants à apprendre et à coopérer, et de l'autre, on apprend aux enfants à être des machines qui apprennent des choses absurdes de par cœur du matin au soir et qui deviennent à peu près fous, qui est le système coréen. Et PISA valorise également les deux. Donc, bien sûr qu'il faut faire la critique de ça. Mais ensuite, il y a des moyens parfaitement
complètement robuste de mesurer l'éducation, pas seulement par PISA. PISA, c'est une des façons de le faire. Et la deuxième chose sur laquelle vous avez raison, c'est que oui, il faut pas être prisonnier du quantitativisme à outrance. Il y a aussi des choses qualitatives à mesurer. Par exemple, sur les questions écologiques, il faut pas tout monétariser. La quantification ne veut pas dire la monétarisation et encore moins la commodification, c'est-à-dire transformer tout en marchandise. Donc, par exemple, les grands indicateurs qui nous intéressent aujourd'hui en termes de biosphère, ils sont biophysiques. Ça va être, par exemple, les 2 degrés. Le 2 degrés ou le 1,5 à 2 degrés qui est dans l'accord de Paris, c'est pas 2% de PIB. Donc oui, il y a aussi une réflexion à faire sur la quantification comme, pas nécessairement comme monétarisation, qui est aussi une façon de sortir de l'économisme.
Gilles, oui, ce travail de réflexion sur les indicateurs, peut-être de manière paradoxale par rapport à ce que vous évoquiez, Ali, tout à l'heure, il a été fait par de nombreux universitaires, mais y compris à l'initiative du politique et, de manière peut-être surprenante, à l'initiative de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République, puisqu'il avait commandé un rapport à Amartya Sen et à Jean-Paul Fitoussi de l'OFCE dont vous faites partie.
Je suis bien au courant, oui.
Oui, oui, vous êtes au courant, et qui avait justement proposé que de modifier la place de l'indicateur du PIB par rapport à l'ensemble de nos indicateurs. Donc là aussi, on est sur des débats qui sont des débats anciens. Mon interrogation, elle est pourquoi vous concentrez votre critique principalement sur l'indicateur sans aller jusqu'à une critique du système lui-même, puisque vous dissociez la critique du PIB de la critique du système capitaliste ou de l'économie de marché, alors que c'est aussi ça qui peut être en jeu.
Alors, il y a deux questions différentes dans votre question. La première, c'est vous dites, tout ça c'est ancien, le rapport Stiglitz a exactement 10 ans, quasiment jour pour jour, d'accord ? C'est pas ancien. D'accord, oui. Il y a 10 ans, c'est donc pas ancien, c'est très nouveau. Comme si on dit que le PIB a été inventé par Simon Kuznets en 1932-34, ça veut donc dire que nous sommes dans une nouvelle phase, et par exemple qui a été marquée par l'adoption des objectifs de développement durable en 2015, c'était il y a seulement 4 ans par les Nations Unies. Vous avez 17 indicateurs qui sont censés refléter ce que doivent viser les sociétés. La croissance occupe un demi-indicateur, qui est l'indicateur 8. Donc en réalité, on est dans un quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait dynamique. Il y a un vrai momentum au coin de la planète. Vous avez la Finlande et la Nouvelle-Zélande qui, cette année même, ont adopté des budgets fondés sur le bien-être et pas sur la croissance. Donc, c'est pas du tout ancien, c'est nouveau et c'est extrêmement dynamique et je pense que c'est en train de changer le monde. En Chine, aux États-Unis, partout. Maintenant, la question qui est, en effet, le système. Ça dépend de quel système vous parlez. Moi, je veux changer le système. Je veux changer le système de décision budgétaire, c'est-à-dire d'allocation des ressources publiques dans nos démocraties, fondées sur la croissance. Et je veux le changer au niveau européen, au niveau national et au niveau local. C'est pas une mince affaire. C'est pas un petit changement de système que je propose. Quand je propose de repenser le débat budgétaire en France, qui va s'ouvrir là, par un débat inaugural sur l'état du pays, parce que quand vous parlez concrètement aux représentants de la nation, vous comprenez qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de se représenter la nation qu'ils représentent, c'est-à-dire ce qu'on leur donne comme information statistique sur l'état de la France, concrètement, c'est le PIB, ses composantes, et c'est à peu près tout. Donc ils savent, par exemple, rien de façon à peu près construite et robuste de l'état des inégalités en France, et rien des écosystèmes en France. Donc moi, je propose de dire, on ouvre le débat budgétaire en France par un état à la fois des inégalités et du patrimoine naturel qu'ils ont la charge d'entretenir et de transmettre aux générations futures pour faire en sorte de savoir de quoi on parle quand on va ensuite voter les charges et les dépenses publiques. Donc si vous voulez, c'est pas un petit changement de système. Le débat sur le capitalisme, je crois que ça va nous emmener très loin. En effet, il me semble que cette question est mal posée. C'est-à-dire que si on dit le capitalisme a absolument besoin de la croissance pour survivre, je pense que c'est pas convaincant comme argument. Vous prenez le Japon, ils sont sortis de la croissance depuis 20 ans, le capitalisme est parfaitement en place. Si on dit le capitalisme est incapable de s'occuper du bien-être, c'est pas convaincant. Vous prenez les pays nordiques, la Finlande, le capitalisme finlandais est un des pays les plus soutenables et c'est un pays capitaliste. Et si on dit quand vous sortez du capitalisme, nécessairement vous sortez de la croissance, c'est pas convaincant non plus. Vous prenez la Chine, c'est un pays communiste et ils sont c'est le pays le plus insoutenable de toute l'histoire économique. Depuis que l'économie existe. Donc, si vous voulez, voilà, je trouve que ce débat est pas bien posé, mais c'est pas, à vrai dire, le cœur du livre.
Est-ce que finalement, la question que vous posez n'est pas avant tout liée à la question démocratique, dans le sens où cette gouvernance, donc cette façon de choisir des indicateurs, permet finalement de construire une expertise qui est une expertise qui échappe ou qui s'impose aux citoyens, alors que tout l'enjeu est justement de faire en sorte d'inventer un système dans lequel les citoyens retrouvent leur autonomie, d'où l'importance de l'échelon local que vous soulignez dans votre livre. C'est-à-dire que c'est par la reprise en main de l'ensemble de leurs choix, et notamment des choix de consommation quotidienne, donc n'importe quel choix économique ou de vie quotidienne, c'est par là que les citoyens peuvent réexercer leur rôle de citoyen et sortir de cette dictature des nombres et de dictature des choix économiques des experts.
Et bah Laurent, bon, je suis il nous reste peu de temps, donc
pas en désaccord avec
courtes.
Vous. C'est à nouveau juste. Oui, le grand défaut du rapport Stiglitz il y a 10 ans, c'était ça. C'était que précisément les citoyens...
Stiglitz, le prix américain de prix Nobel d'économie.
Oui, et donc, à qui le gouvernement Sarkozy a demandé de présider cette commission. Le problème, c'est que les citoyens n'y étaient pas associés. Et aujourd'hui, le grand enjeu, c'est ça. C'est comment faire en sorte que les citoyens, les citoyennes définissent le bien-être qu'ensuite on va mesurer, évaluer. Et c'est pour ça que l'enjeu des municipales est tellement important. Moi, j'essaye de convaincre désespérément la mairie de Paris de se lancer dans un grand indicateur de bien-être à Paris, où on associe les citoyens. On commence par une grande étude sur le bien-être à Paris que l'on n'a pas. Vous regardez, on a des espèces de sondages d'opinion, de briquet de broc. En fait, on ne sait pas concrètement ce que veulent les gens. On ne le sait pas. Et on fonde des politiques dans nos villes.
Enfin, il y a des élections, il y a des programmes, il y a des candidats. Vous allez un peu loin, Laurent.
Non, c'est pas des enquêtes de bien-être. Une enquête de bien-être, il y a quand même une méthodologie. Vous interrogez des gens qui sont représentatifs, etc. Et puis après, vous filtrez les résultats. Et puis après.
Mais d'un mot, malgré tout, les gens, comme vous dites, en tout cas, on peut estimer que les gens ont besoin de services publics. Ils ont envie que les écoles fonctionnent mieux, que les hôpitaux fonctionnent mieux. Et il faut de la création de richesses pour pouvoir prélever de l'impôt et ensuite investir dans les services publics, redistribuer également pour compenser les inégalités sociales. La croissance, elle n'est pas si inutile. L'enlever du logiciel des gouvernants, ça vous fait sourire, Éloi Laurent.
Oui.
Mais c'est très très compliqué. Par quoi est-ce que vous remplacez ces mécanismes qui font, par exemple, le modèle social français ?
Là, vous avez dit le mot-clé. C'est la création de richesses qui permet tout ça, pas la création de croissance. L'idée selon laquelle la croissance crée la richesse, c'est une mythologie économique absolue. C'est la richesse qui crée la croissance. Ce qui fait la croissance, c'est la santé, l'éducation, les institutions, les infrastructures. C'est de ça dont nous devons prendre soin. La croissance économique, c'est la mesure superficielle de cette richesse humaine. Et si nous sommes dans des systèmes dans lesquels la croissance économique détruit la richesse humaine, on s'appauvrit. Et le pays qui s'appauvrit sous nos yeux, selon cette logique, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui est en train de s'appauvrir de tous les points de vue, de la santé, l'éducation, les infrastructures, etc., avec une croissance à 3%. Mais et je ne vous parle même pas de l'état de la démocratie.
Mais est-ce
donc,
que le problème, c'est
fondamentalement, le débat est posé à l'inverse de ce qu'il devrait être. C'est la richesse qui crée la croissance. Prenons soin de la richesse, pas de la croissance.
Il reste très peu de temps.
Mais est-ce que le problème, c'est l'indicateur ou est-ce que ce sont les choix collectifs ? Parce qu'avec le même niveau de croissance, les États-Unis et les pays scandinaves ne font pas les mêmes choix collectifs et le niveau des inégalités derrière n'est pas le même.
D'abord, ils n'ont pas le même niveau de croissance et ensuite, les choix collectifs, c'est justement ce sur quoi je centre le livre. Il y a 50 pages de propositions dans le livre sur la façon de redéfinir les choix collectifs. Et donc, très exactement, c'est quelles sont les institutions, les procédures et les politiques publiques qui font qu'on met en avant un indicateur superficiel et dépassé au XXIe siècle, qui est la croissance du PIB, et qu'on néglige les vraies questions qui nous intéressent, que sont, une fois de plus, le bien-être humain, les inégalités, les crises écologiques, etc.
Bien entendu que la question, c'est celle des choix collectifs. Mais si on a une politique dont le but est uniquement de produire de la croissance parce qu'on subordonne les choix collectifs à cela, ça ne peut pas marcher. Et la meilleure preuve, c'est que nous sommes dans un système où il y a de la croissance, mais il y a quand même plus d'argent dans les caisses de l'État pour des services publics dans les territoires qui sont aujourd'hui désertifiés. On ferme des gares, on ferme des hôpitaux.
Enfin, le discours dominant en France, c'est que la croissance est trop faible.
Non, c'est pas que la croissance est trop faible. C'est tout simplement que l'argent ne va pas vers l'État. C'est donc bien parce que la croissance seule, ça ne suffit pas à mesurer tout cela.
Et vous prenez l'année 2017, ça a été une des meilleures performances de croissance de l'histoire de la France. Vous avez absolument tous les problèmes français qui demeurent, et notamment la paupérisation du système de santé, du système d'éducation, des territoires, etc., qui sont la vraie source de la prospérité. Une fois de plus, la vraie question fondamentale, c'est que avec la croissance, on s'appauvrit. Je crois que c'est comme ça qu'il faut raisonner.
Et c'est paradoxal, donc c'est vrai que c'est difficile à intégrer.
Oui, voilà, mais c'est la contre-intuitif. Force des idées vraies, si je puis dire.
Ça vous a convaincu, Gilles ?
Le fait que la croissance occupe aujourd'hui aujourd'hui et depuis de très nombreuses années une place beaucoup trop importante et qu'il faille diversifier les indicateurs, ça me convainc tout à fait, et ça j'ai absolument aucun problème. La question c'est dans quelle mesure il faut continuer à créer de la richesse, sous quelle forme, mais ça on n'est pas nécessairement en désaccord sur ce point-là.
Édouard Laurent ?
Imaginez un pays dans lequel vous voulez augmenter le PIB de façon extrêmement importante de 20 ou 30%. Vous augmentez les inégalités, c'est le plus sûr moyen d'augmenter la croissance. C'est ce que font les États-Unis depuis le plan fiscal de 2017. Ils ont augmenté, ils ont une espèce de shoot de croissance, et c'est une croissance tirée par les inégalités. Mmh. C'est-à-dire que c'est une société qui en réalité se fracture, se fragmente, s'appauvrit, dans laquelle fondamentalement la croissance augmente par les inégalités. Voilà. Vous voulez augmenter la croissance, détruisez tous vos écosystèmes. Il faudra ensuite les réparer. Donc augmentez les inégalités, détruisez vos écosystèmes, vous augmenterez votre croissance. Par ce raisonnement-là, vous comprenez que l'enjeu du 21e siècle, c'est de sortir de la croissance pour préserver la société, la fabrique de la société et les écosystèmes qui sous-tendent notre bien-être.
Aux auditeurs de juger, Éloi Laurent, aux auditeurs et évidemment aux lecteurs de ce livre, Sortir de la croissance, mode d'emploi, c'est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent et c'est passionnant. Natacha et Gilles, merci à tous les deux, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Anne Lioro, à la technique Stéphane Boja, et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques avec François Bayrou.